Frères et sœurs, voilà quelques semaines se produisit une ascension et non des moindres. Nous étions le vendredi 23 avril, quelque part en Floride, au bord de l'océan. La nuit durait encore au moment où s'éleva vers le ciel une intense colonne de feu qui transmit sa clarté à la région tout entière et même au-delà. Une équipe de 4 astronautes, parmi lesquels figurait Thomas Pesquet, venait de commencer son ascension vers l'espace. À cet instant, nombreux étaient les regards qui suivaient la trajectoire de la fusée jusqu'à la perdre de vue. Même après sa disparition, ils continuaient à scruter le ciel, tant le génie humain et l'ampleur de l'aventure ne peuvent manquer de nous saisir. 2000 ans plus tôt, quelques semaines après la résurrection du Christ, il n'y avait certes pas de fusée ni de capsule dragon, pas plus que de conquêtes spatiales, mais les apôtres, eux aussi, contemplaient le ciel vers lequel s'élevait sous leurs yeux celui qu'ils avaient suivi, aimé, écouté, pleuré, puis retrouvé. Il était de nouveau avec eux, et de nouveau il les quittait. Le Seigneur avait disparu, mais ils continuaient à le chercher du regard. Alors, une voix se fit entendre. « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?» Cette question, posée simplement à quelques hommes un peu étonnés et peut-être un peu perdus, a inauguré la grande aventure de la mission chrétienne qui s'est poursuivie jusqu'à nous et qui est appelée à se poursuivre avec nous. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Désormais, le ciel n'est plus à observer, mais la terre est à parcourir pour ouvrir le cœur des hommes à la lumière de Dieu. Les apôtres, nous venons de l'entendre, ont mis peu de temps à mettre en œuvre d'une manière dynamique et concrète le dernier enseignement de Jésus qui était une exhortation autant qu'un envoi. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Ils ne sont pas restés immobiles ni paralysés par l'ampleur de la tâche et les exigences de la mission qui les attendait. Pourtant, pour eux comme pour nous, la tentation existe toujours de se cacher, de fuir, ou encore de faire la sourde oreille lorsque nous pressentons que les risques d'une aventure sont plus grands que les gratifications à recevoir. Les apôtres sont partis avec ardeur et confiance car ils avaient compris que Jésus ne les avait pas abandonnés, mais qu'il demeurait présent à leur côté et qu'il était ainsi le véritable acteur de la mission. S'il est vraiment ressuscité, alors nous n'avons rien à craindre. Toute initiative de notre part repose sur cet acte de foi que la fête de Pâques nous a permis de renouveler. Le Seigneur Jésus est vivant. Et ces mots ne sont pas seulement des mots, ils expriment notre expérience la plus profonde. C'est alors que se posent toutes les objections qui peuvent ralentir ou blesser l'acte de foi. La violence et la souffrance les offenses morales et les divisions, la peur et le découragement, la perspective de la mort et tant d'autres réalités douloureuses auxquelles nous sommes confrontés. Les apôtres et tous les chrétiens de la première génération ne l'ont-ils pas été avant nous ? C'est ainsi que Paul s'adresse aux Éphésiens depuis le fond de sa prison, les invitant au courage et à l'espérance. Il n'est pas question de comparer les époques ni les épreuves. Peut-être simplement devons-nous sortir de l'illusion d'une foi lisse et transparente comme l'eau qui coule de la source. Car il se trouve qu'elle charrie son lot d'impureté, mais aussi d'interrogations et de doutes. Pourtant, la foi demeure toujours un don de Dieu, avant d'être une initiative de notre part. Elle nous est donnée comme cette lumière capable d'éclairer toute l'existence de l'homme, selon l'expression imagée du pape François. Par conséquent, il n'existe aucune dimension de notre humanité que la foi ne puisse visiter, apaiser, fortifier ou consoler. Lorsque nous sommes démunis ou sans réponse immédiate, alors nous déposons simplement entre les mains de Dieu la pauvreté de notre foi. Depuis longtemps, en effet, nous avons découvert, souvent stupéfaits, que Dieu est capable de convertir toute pauvreté en richesse étonnante. De surcroît, il a eu l'idée, certes audacieuse, peut-être imprudente, de nous confier les uns aux autres et de faire de nous des frères et sœurs dans la foi. Il nous confie donc aussi la mission d'enrichir nos chemins de foi mutuels. De cette fête de l'Ascension, nous pouvons alors recevoir un dernier enseignement qui est presque un avertissement. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Ces mots de Paul ne devraient jamais nous quitter car ils invitent à la cohérence de la foi. Tous, nous avons été appelés par le Seigneur à le suivre et à l'aimer, à le servir et à le faire connaître. Tous, nous avons reçu le même baptême et nous communions au même pain. Et tous, nous sommes différents les uns des autres. Serait-ce une erreur de la part de Dieu, un calcul hasardeux, une provocation ? Avec une grande force, Paul souligne que le corps du Christ se construit grâce à cette diversité, car nous ne sommes pas tous habités des mêmes charismes, ni appelés au même engagement. Mais à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée. Répétons-le une fois encore, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée. Et cette grâce qui vient de Dieu est unique. La conversion que nous avons peut-être à vivre est de percevoir cette grande diversité du peuple Dieu comme une richesse et non pas comme un problème. Nous en prenons une conscience plus vive lorsque nous voyons certains baptisés capable de faire ce qui nous paraît difficile ou exigeant, et certainement la réciproque est vraie. Le jour de l'Ascension, les apôtres étaient réunis autour de leur maître. Ensuite, ils se sont dispersés pour vivre en communion les uns avec les autres, le même engagement missionnaire, enraciné dans la même foi. Telle est donc aujourd'hui notre vocation commune. Amen.